tout à coup, parce que le rideau s'ouvre, les douleurs disparaissent, les douleurs corporelles, les douleurs, oui, même les douleurs psychiques, qui sont des douleurs corporelles, on joue. Tout à coup, le fait de jouer, le fait d'être bizarrement quelqu'un d'autre, les douleurs disparaissent.
Pascal Paradou.
De la magie de raconter des histoires, j'ai un très beau souvenir d'une rencontre avec le comédien Jean Rochefort que j'ai eu envie de vous faire partager. Car derrière la moustache la plus célèbre du cinéma français se révèle un acteur drôlatique et profond, capable de jouer le marquis de Bellegarde dans Ridicule ou le flegmatique Étienne, passionné par les femmes et le tennis. Dans Un éléphant, ça trompe énormément. Une voix et un sourire malicieux, celui de Jean Rochefort aujourd'hui, mais un autre raconteur d'histoire s'invite dans l'émission en la personne de Timothée de Fombelle, l'auteur que tous les adolescents s'arrachent pour découvrir les aventures de la saga Van Gogh ou le roman Toby Lowness, qui fut traduit en 29 langues. Aujourd'hui, il revient en librairie avec Alma, une histoire qui se passe en 1786, alors que les navires sillonnent les mers pour faire commerce des esclaves. Bonjour Timothée de Fombelle.
Bonjour.
Alma, c'est l'histoire de l'esclavage à la fin du XVIIIe siècle. C'est une histoire d'aventure. Est-ce que l'esclavage est une histoire d'aventure ?
Alors, l'esclavage en lui-même n'est sûrement pas une aventure. En revanche, l'aventure est un moyen de se glisser dans l'histoire en général, y compris dans ses drames, dans ses tragédies. Et donc, je ne parle pas d'aventure de l'esclavage, mais en revanche, je parle d'une aventure qui est sur fond d'esclavage, comme j'ai lu à 10 ans Un sac de billes sur fond de Shoah, ou que j'ai lu 10 ans plus tard Fabrice Del Dongo chez Stendhal, arrivant sur Waterloo, malgré les 10 000 morts, et en faisant presque une scène paisible. Voilà. Donc c'est un peu le propre de la littérature jeunesse, on va dire, d'essayer de raconter les choses par le biais de l'aventure.
Et vous racontez donc l'histoire de cette petite fille, Alma, qui a une douzaine, treizaine d'années, avec son frère. Tout commence dans une vallée paradisiaque, avec un zèbre sans rayures. C'est une étrangeté comme ça dès le début. Et puis l'enfant disparaît et Alma part à sa recherche.
Oui, dès la première ligne, il y a ce zèbre sans rayures. Et comme il semblerait que ça n'existe pas, un zèbre sans rayures, c'est comme si j'installais discrètement la menace qui est cette présence inattendue. C'est un cheval. Si c'est un cheval, c'est que ces enfants qui sont dans cette vallée complètement fermée sur elle-même ne sont pas à l'abri d'une intrusion et donc qu'il y a une faille dans les falaises qui entourent ce paradis perdu.
Donc un danger, mais on ne sait pas exactement où l'on est. Est-on en Afrique d'entrée de jeu ?
Alors on y est, mais je voulais que les racines du peuple dont je parle, le peuple Oko, soient des racines imaginaires. Donc j'ai créé, à vrai dire, moi qui ai passé quelques années de mon enfance en Afrique de l'Ouest, là je suis allé beaucoup plus à l'Est, plus dans l'Afrique orientale, l'Afrique du Rift, l'Afrique du Kenya, de la Tanzanie, pour bâtir, parce que je voulais surtout le monde naturel de l'Afrique dans ses premiers chapitres que je quitte rapidement pour traverser jusqu'à l'ancienne Côte de l'Or.
On est en Afrique, mais donc dans un village, dans un peuple un peu imaginaire qui parle Oko, donc cette langue n'existe pas. Oui. Et Alma, dans cette langue qui n'existe pas, veut dire « marqué au fer rouge de la liberté ». C'est un signe.
Oui, et d'ailleurs elle ne le comprend même pas dans son enfance. Quand son père lui dit que ça veut dire ça, elle ne sait pas ni ce que c'est qu'un fer rouge, ni ce que c'est qu'être marqué. En revanche, elle commence à comprendre ce qu'est la liberté puisqu'elle vit dans la liberté. Et c'est aussi cette création de cette vallée, c'est aussi inventer le royaume de la liberté qui pour moi rejoint aussi, j'avoue, ma propre enfance dans les Deux-Sèvres. Et là, il y a une recherche d'universel vraiment dans ces lieux qui marquent l'enfance. Et elle est marquée, ça veut dire que c'est une trace, cette liberté, je dis, d'entrée de jeu, qu'on ne pourra pas lui retirer. Alors il y a une part de liberté intérieure, mais elle va avoir elle, c'est d'ailleurs un basculement dans l'écriture du livre pour moi. Je me souviens, c'était il y a 3 ans, mais je tâtonnais sur comment raconter cette histoire sans faire de mes personnages seulement des victimes ballottées et que tous les gens actifs soient des hommes blancs, des négriers, des chasseurs d'esclaves. C'était impossible de raconter cette histoire de cette manière, parce qu'en plus c'est pas vrai. La plus grande partie de l'émancipation des Noirs, c'est pas l'abolition par de bons blancs, c'est vraiment les Noirs par eux-mêmes. Donc je voulais qu'elle ait cette liberté-là, et donc j'ai décidé d'en faire un personnage libre qui rame vraiment dans sa petite pirogue vers le navire, parce qu'elle a un but, libérer son petit frère.
Timothée de Fombelle, Alma est annoncée comme une saga en 3 tomes de 400 pages, en tout cas le premier fait 400 pages, on ne va pas tout raconter, mais est-ce que ça finit bien ?
Alors, ça va être vraiment d'une indiscrétion pas possible, mais je dois reconnaître que c'est un autre défi. Mais alors là, c'est vraiment entre nous, j'espère qu'on ne m'écoute pas au bout du monde. Je dois reconnaître que j'ai ma dernière scène dans la tête et que cette dernière scène est profondément heureuse. C'est quelque chose... Normalement, je passe mes personnages dans mes héros à la moulinette de l'épreuve et ils en sortent transformés et quand même un peu meurtris. J'espère grandis, mais un peu meurtris. Peut-être aussi par la dureté de ce crime qu'a été l'esclavage, j'ai décidé de garder l'intégrité de ma famille, de la famille d'Alma, au cours de ces 1200 pages d'aventure. C'est quelque chose d'impossible. Il n'y a qu'un raconteur d'histoire qui peut le faire. Dans l'histoire, avec un grand H, ça ne pouvait pas arriver, je pense, parce que plus je me plonge dans ce crime contre l'humanité, la France l'a reconnu comme tel, plus je vois que la mort est à chaque étape, même si ça n'est pas présenté comme un génocide.
C'est la première fois que l'esclavage est ainsi la toile de fond, la trame d'un roman jeunesse ?
Alors, il y a des livres jeunesse. J'apprends qu'il y en a beaucoup dans les librairies aux Antilles, par exemple. Mais moi, je regarde ce que j'ai dans les librairies autour de moi. Il y a peu de choses. Il y a peu de choses sur la traite, à vrai dire. Il y a un peu plus sur l'esclavage, les plantations, les habitations là où ces captifs étaient réduits en esclavage. Mais sur cette traversée, il y a vraiment très peu de choses. Et quand, par hasard, il y a quelques livres qui sont un peu des « Vie ma vie d'esclave », il y a un petit peu ce côté-là, c'est-à-dire simplement c'est le parcours typique, la trajectoire de l'enfant attrapé. Il y a peu de place pour l'imaginaire, il y a peu de place pour l'épique. Et donc je voulais que cette histoire entre par l'imaginaire, par l'attachement, par l'émotion, comme toutes les grandes histoires, à mon avis, nous sont entrées dans la tête. Je parlais tout à l'heure de la guerre de 40 ou des années 30. Peut-être que ce sont des œuvres de littérature ou des œuvres cinématographiques qui nous les ont rendues vraiment intérieures et qui font qu'elles sont digérées et qu'elles font partie vraiment de manière définitive de notre histoire. Et ça me manquait. Je ne dis pas du tout que je suis le premier. D'ailleurs, il y a des grandes œuvres, alors plutôt pour les grands, mais des œuvres comme Racine ou bien comme Jubilé, comme des œuvres américaines qui, elles, remontent jusqu'au départ de l'Afrique. Mais pour les enfants, il y a peu de choses. Et je ne sais pas si en ce moment, le livre... Mon plus grand bonheur, c'est qu'il est vraiment en pile dans les librairies et qu'il y a beaucoup, beaucoup de lecteurs qui s'en emparent. Et ça, je pense pas que même d'ailleurs un héros, une héroïne à la peau noire, ces 30 dernières années, qui serait un peu en tête des ventes jeunesse en librairie, je pense pas que ça existe. C'est ça qui me touche et qui me bouleverse, même si... Il y a une autre chose que je ne peux pas faire, mais qui, autant je peux créer des héros noirs, autant je ne peux pas créer des auteurs noirs, et il y en a énormément, mais je ne peux pas, moi, faire quelque chose là-dessus, donc j'ai fait ce que je pouvais.
Timothée de Fombelle, à ce propos, justement, votre œuvre est traduite dans le monde entier, mais votre éditeur américain vous a fait savoir qu'il ne souhaitait pas publier Alma, car vous risqueriez d'être accusé d'appropriation culturelle, parce que un blanc ne pourrait pas raconter l'histoire d'un noir. Vous en pensez quoi ?
D'abord, je ne trouve pas que ce soit un drame pour ma personne, au sens où je raconte l'histoire de millions de victimes et que je ne vais sûrement pas me considérer comme une victime et absolument pas de la censure. Il y a eu un journal qui a titré « Il crie à la censure », mais jamais de la vie je vais crier à la censure. Mais ce qui me désole, je vais dire simplement, c'est que ça s'éloigne, cette règle-là qui tend à se répandre dans le monde anglo-saxon, mais pas du tout en France, cette règle-là éloigne le livre de ce qu'est la littérature, c'est-à-dire justement ce que je viens de dire, traverser d'autres destins que le sien. Donc ça, c'est un peu douloureux parce que c'est mon métier de raconter des histoires et que je veux continuer à les raconter, mais je comprends, c'est-à-dire, et je trouve que mon éditeur, il m'a édité depuis 15 ans, livre après livre, avec des livres atypiques, un peu différents à chaque fois, et il me suivait courageusement, et donc je sais qu'il sait ce qu'il peut faire, et s'il sent qu'il ne pourra pas bien défendre mon livre, en l'appréciant, d'après ce que j'ai compris, et les échanges, j'échange tous les jours avec eux, s'il ne le fait pas, bah, faut pas qu'il le fasse. Donc c'est pour moi vraiment un épiphénomène. Il y a eu toute une histoire autour de ça, mais c'est vraiment pour moi quelque chose de secondaire et Alma trouvera son chemin pour aller vers les lecteurs.
Merci beaucoup Timothée de Fombel. Alma, premier tome, Le Vent se lève, est édité chez Gallimard Jeunesse avec des illustrations de François Place. Merci.
Merci à vous.
Métamorphose, changement d'une forme en une autre. Le dictionnaire ne dit pas si ce processus affecte l'homme. Et pourtant, un de mes amis fut victime de cette crise étrange.
La semaine dernière, deux faits apparemment dissemblables agitaient sa maisonnée. Le vol de la voiture et la disparition du perroquet. En fin d'après-midi, ces deux énigmes se rejoignirent dans l'insolite d'un seul épilogue. L'automobile avait été retrouvé fracassé contre la vitrine d'une grainerie. Sur le siège avant, gisait le volatile baroudeur, le crâne éclaté.
Ben, vous voyez, ces volailles n'ont aucun réflexe.
Répétait le policier, fier de son humour. L'autorité faisait de l'esprit pour oublier un mystère insoluble.
Six jours plus tard, de nouvelles perturbations hérissèrent le paisible foyer d'une huppe dufteuse.
L'enfant ne mentait pas, et la jeune femme découvrit son mari perché sur la télévision. Un bien curieux mari d'ailleurs, au plumage intéressant. Elle crut rêver devant ce visage familier, au nez qui semblait se durcir en bec.
C'est épouvantable, qu'est-ce que tu as?
J'ai envie de voler.
Oh oui papa, décolle, décolle.
Oh, qu'est-ce qui nous arrive? Je deviens folle, mais réponds.
Depuis la mort de notre perroquet,
je me sens tout chaud.
J'ai l'impression que ma tête rétrécit.
Un serin de pensée de plus en plus sombre.
J'ai de nouveaux désirs.
Ainsi, hier, je voulais des graines pour mon repas.
George, ta voile.
Oui, par moments, je ne peux plus la contrôler.
Maintenant, ouvre vite la fenêtre. J'ai besoin d'aide pour me soutenir. Il me faut quelques insectes. J'ai faim.
Quant à un auteur de science-fiction, Gilbert Deflaize, lit un extrait de son livre « Je suis vivant, mais j'ai peur » sur une musique de Jackie Chalard, album intitulé « Psyché France », sorti il y a 2 semaines. Le goût des histoires au théâtre ou sur l'écran, Jean Rochefort n'a cessé d'en raconter. Sa carrière des années 60 à la fin de sa vie en 2017 n'aura jamais connu d'interruption, avec une fidélité très grande pour le réalisateur Patrice Lecomte et sa bande du conservatoire, une bande de comédiens, Noiret, Marielle et Belmondo. En 2007, il est au théâtre dans un spectacle intitulé Entre autres, qui est un kaléidoscope très personnel des textes aimés et des souvenirs. Dans sa loge de théâtre, Jean Rochefort et quelques histoires.
Je suis un provincial. La province de mon enfance était un désert absolu. Et la littérature et la radio, j'insiste beaucoup, ont été les deux moteurs de l'ouverture de mes neurones.
Vous écoutiez quoi à la radio? Parce que alors, vous assistez.
Nous écoutions beaucoup, ma mère et moi, les feuilletons qui avaient lieu en général vers 18h et les retransmissions théâtrales. qui n'était pas en direct, non, je ne pense pas, mais on se mettait dans la pénombre, ma mère et moi, dans le noir même, et le souvenir extraordinaire d'entendre les pas des acteurs qui se déplaçaient sur la scène.
Et le désir d'être comédien est né là ?
Je ne m'en suis pas rendu compte, mais je pense que j'ai eu là des émotions intenses. Et je me souviens que je jouais au foot avec des copains sur la place de je ne sais plus quelle ville où nous habitions. Et ma mère sortait sur le perron de la maison et m'appelait « Jean, c'est l'heure de l'aiguille creuse !» C'était le feuilleton de 18h et j'abandonnais mes copains pour aller écouter le 37e épisode de l'aiguille creuse.
Et vous lisiez donc après ou avant ? Ou tout le temps ?
Alors non, j'ai lu assez tard parce que le début de ma culture était par le dessin animé. La bande dessinée, le dessin animé, je crois que les 12 ou 13 premières années de ma vie, j'ai vu un monde en caoutchouc où les immeubles tombaient sur les héros et les héros retrouvaient leur taille normale quand l'immeuble était soulevé. Et voilà comment je considérais que la vie pouvait être possible, c'est-à-dire dans la fiction la plus absolue.
Mais vous parlez pas beaucoup de bande dessinée dans le spectacle, entre autres. Vous parlez d'Henri Miller en disant qu'il a été l'auteur qui a accompagné toute votre vie. C'est pour faire chic et intello ou...
Ah non, alors là, vous avez tout à fait raison. C'est parce que je parle des 12 premières années de ma vie, mais après, Miller, ça a été à 14 ans. Et c'était vraiment, à l'époque, à 14 ans, découvrir le diable. Le diable en bibliothèque.
Le sexe.
Le sexe, bien sûr, tous les interdits qu'il y avait à l'époque étaient énormes. Et ça a été une découverte fulgurante. Et alors là, je dois dire que Miller a été un des premiers importants... J'ai été électrocuté littéralement par cette découverte de Miller.
Mais est-ce que vous avez, Jean Rochefort, des amours exclusives comme ça ? Parce que dans le spectacle, entre autres, vous aimez à parler de Miller, mais aussi de Primo Levi, en évoquant les camps de concentration, les femmes tondues, mais aussi Fernand Reynaud ou Charles Trenet. Vous passez vraiment d'un registre à l'autre, d'un auteur à l'autre.
Alors c'est là peut-être que je me découvre le plus. J'ai une sorte d'exclusivité comportementale. Je suis un homme à l'éventail assez large, toute modestie gardée, et je n'ai pas de sectarisme culturel, je déteste cela, et je ne suis pas contre une certaine sottise, une vulgarité physiologico-hilarante, qui est le propre du romanichel.
Donc vous êtes et léger et grave.
Je crois que je suis léger parce que grave. Parce que la légèreté sans gravité n'est pas très intéressante.
Dans le spectacle, vous dites que vous rêvez, ou vous rêviez, je ne sais pas si c'est au présent ou au passé, d'être un acteur drôlatique. Ça veut dire quoi ?
Un acteur drôlatique, j'ai trouvé ça assez récemment. Acteur comique ne me convient pas, acteur tragique ne me convenait pas non plus. Je trouve que drôlatique raconte bien un acteur qui est en lisière permanente, qui est toujours en lisière de la forêt, c'est-à-dire si le drame arrive, il va pencher vers le drôlatique, si le drôlatique arrive trop, il va pencher vers le dramatique. Il veut être toujours en lisière. Alors, drôlatique, c'est-à-dire sporadiquement drôle.
Donc ça veut dire passer de Roland Barthes, par exemple, à l'imitation du chimpanzé.
Tout à fait. Avec
chose que vous faites très très bien.
Je vous en remercie. Et il faut ajouter que c'est un chimpanzé avec toucher de testicules.
De même que le lion est en plein coït quand vous l'imitez.
Absolument. Le lion est en plein coït et le cri de la femelle du gibbon au crépuscule en Malaisie a été vécu par moi-même. Et tout ça est en direct.
Les auditeurs doivent se dire que vous êtes fou ou qu'on est fou et ne doivent plus rien comprendre. Là.
Je crois qu'à notre époque, c'est peut-être le plus grand service qu'on puisse rendre à nos contemporains.
De ne plus comprendre ?
De ne plus comprendre et de rester fou.
Jean Rochefort, le public vous connaît par le cinéma. Votre moustache est devenue un accessoire de l'imaginaire collectif, je trouve. Vous l'avez toujours eu d'ailleurs ?
Non, elle est venue à 40 ans.
Ah oui, assez tard quand même.
Ans, assez tard pour jouer justement Alceste du Misanthrope, parce que les fausses moustaches décollaient et j'avais un physique vertical qui m'interdisait par trop les relations sexuées avec les partenaires féminines dans la fiction, j'entends bien, le reste ne nous intéressera absolument pas, il faut bien le dire.
Enfin, pour les auditeurs, en tout cas.
Oui, pour les auditeurs, en tout cas, merci de l'avoir ajouté. Et j'ai ajouté cette horizontalité dans ma verticalité, et ça a complètement changé ma morphologie. Sans moustache, j'avais l'air tellement hypocrite et lâche, ce que je suis en fait, que ça limitait mes rôles.
Donc c'est un masque en fait, vos moustaches.
Ah, mes moustaches sont un masque.
Dans le spectacle, vous parlez aussi de Noiret, de Serrault. Vous évoquez leur présence. C'était à la fois des partenaires et puis des complices.
Des partenaires, des complices, des hommes infiniment estimables et puis des grands, grands talents, des hommes qui ont compté dans ma vie sur le plan et de l'amitié et de l'admiration que je leur portais.
Quand vous citez en même temps Noiret, c'est pour faire une forme de petite leçon de théâtre, en fait.
Tout à fait.
Parce que vous racontez une anecdote le concernant, qui doit s'appliquer, j'imagine, à vous et à plein d'autres comédiens.
Oui, à ce phénomène absolument étrange, qui m'arrive de constater de plus en plus, d'une anesthésie générale ou locale, où tout à coup, parce que le rideau s'ouvre, les douleurs disparaissent, les douleurs corporelles, les douleurs, même les douleurs psychiques, qui sont des douleurs corporelles, on joue. Tout à coup, le fait de jouer, le fait d'être bizarrement quelqu'un d'autre, il y a un phénomène d'anesthésie qui est très intéressant, et je raconte justement que mon ami Noiret, c'est Anouk Aimé qui m'a dit, quand il jouait, marchait très vite sur scène, et quand le rideau tombait, il avait un peu de mal à se relever.
Mais sur scène, il n'avait pas besoin de canne. Jean Rochefort, de votre carrière, est-ce que vous avez des regrets ?
Des regrets ? Peut-être un seul ou deux, à savoir de ne pas avoir plus entrepris. Je n'ai pas désiré, par manque de confiance en moi, être un meneur. Je n'ai pas souhaité entreprendre pour les autres et pour moi-même. J'ai longtemps désiré faire du cinéma comme réalisateur. J'ai fait des moyens-métrages, j'ai fait des choses comme ça.
Ne pas avoir joué le misanthrope n'est pas un regret, par exemple.
Si, voilà. Ah. Alors, il ne reste que celui-là. Il ne reste que celui-là.
Ça, vous en parlez dans le spectacle.
J'en parle dans le spectacle. Voilà. Ça, c'est. Je me suis aperçu, encore une fois, toute modestie gardée, que je ne suis pas loin de cet homme. J'ai un sens de la rigueur. Et la rigueur d'Alceste qui s'effrite devant l'amour, je sens ça tout près de moi.
Jean Rochefort, dans le spectacle, les derniers mots, vous qui citez tant d'auteurs, sont « Chaque jour est un miracle ».
Oui.
C'est de qui ?
De mon médecin. De mon médecin, un urologue pointu. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Donc vous l'appropriez ?
Je lui en ai fait part, il aura une place gratuite.
Jean Rochefort et la musique du film Un éléphant, ça trompe énormément, signé Vladimir Kosma. C'était en 1976. Des voix de cinéma, c'est la chronique de Lucie Bouteloup.
La puce à l'oreille se fait une toile.
La puce à l'oreille.
Eh bien, bon, on les mange et après on va au cinéma.
Cinéma.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Avec quelle voix allez-vous me parler aujourd'hui, nous parler, celle de Mimi ?
Minnie, la femme de Mickey, n'a pas vraiment plutôt une voix bien plus virile, puisque aujourd'hui on va parler de doublage. Et pour commencer le sujet, on va tout de suite écouter une tirade bien musclée.
Jusqu'où tu veux me pousser, Adrian? Tu veux la savoir, la vérité? La vérité, c'est que j'ai peur de perdre ce que j'ai. Au début, j'en avais rien à foutre de ce qui m'arrivait sur le ring. Je pouvais me faire taper dessus, je m'en foutais. Maintenant, il y a toi, il y a le petit. Et je veux pas perdre ça.
Mais c'est quoi, la vérité? Dis-le-moi.
J'ai peur! T'es contente? Tu voulais me le faire dire? Pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur.
Une voix pleine de testostérone, hein?
Oui, Pascal, j'espère que vous avez pas peur. En tout cas, c'est la voix de Rocky Balboa qu'on vient d'entendre dans un extrait du film Rocky III, qui est sorti en 1982. Et comme dans les 5 autres volets de la série, le film est interprété par Sylvester Stallone, qui campe le rôle d'un boxeur italo-américain des quartiers pauvres de Philadelphie. Un boxeur dont les spectateurs vont d'ailleurs pouvoir suivre les aventures pendant près de 30 ans dans les salles. Et pendant ces 30 ans, c'est Alain Dorval qui interprétera la voix française de Rocky, mais aussi de tous les autres films dans lesquels Stallone va jouer. Idem pour Patrick Poivet avec la voix de Bruce Willis, Richard Darbois avec celle d'Harrison Ford, ou encore Céline Monsara avec celle de Julia Roberts. Des noms qui ne vous disent peut-être pas grand-chose, mais qui sont devenus totalement indissociables des acteurs auxquels ils prêtent leur voix française, un peu comme un double.
Le doublage est né avec le cinéma parlant ?
Oui, à peu près exactement. Et plusieurs solutions ont été envisagées pour que les acteurs soient compréhensibles de tous et permettre au film d'ailleurs une carrière internationale. Alors dans un premier temps, Pascal, les réalisateurs ont choisi de tourner leur film en plusieurs versions, avec des comédiens qui changeaient à chaque fois pour chacune des zones linguistiques. Une autre technique envisagée, ça a été de faire doubler les acteurs par les comédiens eux-mêmes. C'est un exercice pour le moins périlleux, hein, auquel se sont prêtés notamment les acteurs du duo Laurel et Hardy, qui ont dû apprendre phonétiquement leur texte en plusieurs langues. C'est d'ailleurs de là que leur reste l'accent américain qui a fait leur marque de fabrique et qu'ils ont conservé même après leur doublage. Quant à Hitchcock, Pascal, lui, il n'a carrément pas hésité à faire doubler en direct une de ses actrices qui avait un trop fort accent slave et qui devait se contenter de mimer les scènes en plateau. En France, fort heureusement, à partir de 1931, la solution du doublage s'est rapidement imposée, d'autant qu'à l'époque, très peu de salles avaient l'autorisation de diffuser des versions sous-titrées.
Alors je ne sais pas vous, Lucie, mais personnellement, moi je suis quand même plutôt VO que VF.
Eh ben, je vous comprends, Pascal, parce que c'est vrai que pour beaucoup, changer la voix d'un acteur, c'est lui enlever sa personnalité et puis ça finit un petit peu par dénaturer le film. Et puis la voix, est-ce qu'elle véhicule, c'est quand même quelque chose de très subjectif dans le fond. Par exemple, l'acteur qui double Gérard Depardieu en Russie, eh bien, il a une voix beaucoup plus grave que la sienne. Ce qui compte dans la version russe, c'est pas de coller à la vérité, mais c'est l'idée de puissance qu'il dégage avec sa carrure, un peu comme pour Stallone. Alors bien sûr, il y a encore parfois des problèmes de synchronisation entre la voix doublé et les lèvres de l'acteur à l'écran, mais le doublage, eh bien, il pose une autre question, celle des accents et de ses stéréotypes. Comment être certain de restituer le bon timbre de voix à un personnage noir américain et originaire de New York sans pousser l'accent à la caricature? Idem pour l'accent allemand ou l'accent russe dans les James Bond, par exemple.
Finalement, c'est que dans les dessins animés que le doublage est sympa.
Oui, et c'est pas le serpent K qui va vous dire le contraire.
Je puisse veiller sur toi. Attention, Vanessa.
C'est Roger Carrel qui interprétait ici le serpent K. Roger Carrel, la voix de mon enfance, puisque c'est lui qui a interprété Astérix, Kermit la grenouille, Winnie l'ourson, Jiminy Cricket, j'en passe et des meilleurs, Pascal. En tout cas, cette superstar du doublage de dessins animés a ouvert la voie à plein d'autres acteurs, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu quasi impensable de faire des films d'animation sans avoir des people en tête d'affiche. Et quand Eddie Murphy double l'âne dans Shrek, eh bien, c'est la célèbre doublure May Dondo qui fait la version française.
Et qui peut vous doubler, Lucie Bouteloup?
À vous de me le dire, Pascal.
Merci
Speedy
beaucoup.
Speedy Gonzalez, peut-être.
Speedy Gonzalez, c'est ça. Merci beaucoup de vive voix, Pascal Paradou, Louis Caledec, Françoise Delignon et Lina Guillaume-Ploca, la réalisation. On se retrouve demain.